Alors bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez profité du temps de repos cet après-midi, de loisirs. Je pense qu'il y en a qui ont profité, moi aussi un peu. Mais en tout cas, ça fait du bien de se retrouver encore une fois pour le troisième message d'une série de quatre. On a commencé à bien réfléchir sur la prière, plusieurs aspects de la prière. Une démonstration, une définition. On a parlé des obstacles à la prière. Et ce soir, on va parler encore de quelque chose d'autre qui, je pense, est très important, la prière communautaire. Alors, dernièrement, moi, j'ai écouté un message du pasteur américain John Piper. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le pasteur John Piper?
Oui.
Ouais, bon. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il était pasteur baptiste dans une grande ville du Midwest américain, au Minnesota. Maintenant, il est à la retraite et John Piper voyage dans plusieurs pays. Il était à Évangile 21 il n'y a pas si longtemps. Et j'ai eu l'occasion de l'entendre. Mais moi, j'aime bien écouter les messages de Piper. C'est un prédicateur qui est centré sur la parole de Dieu. Et lui, il disait un jour quelque chose de très important pour nous. Il disait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, avec les moyens et toutes les ressources dont on dispose, la pub, le marketing, l'argent, aujourd'hui, on peut rassembler 20 000 personnes et former une grande église sans même prier, ou très peu. C'est possible. Ça existe.
Combien ?
20 000 personnes.
20
000. Et il est américain et il dit que ça existe. On se mobilise, on travaille fort, on offre un produit qui plaît et les gens viennent. D'accord ? Une église sans prière ou très peu de prière. Et c'est vrai que, humainement parlant, avec les moyens qu'on a, on peut parfois faire beaucoup de choses, même ici en France. Si la question, c'est simplement de rassembler un groupe, ça peut se faire. Mais au tout début de l'Église, cette façon de fonctionner n'aurait jamais marché. Pourquoi ? Les premiers disciples devaient surmonter des obstacles extraordinaires. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Opposition, persécution, emprisonnement. Ils étaient confrontés aux menaces des autorités politiques et religieuses. L'Église était en minorité. À peine une petite poignée de croyants marginaux, sans ressources, sans trop de moyens. Même Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, à la fin du premier chapitre, il dit ceci, que parmi les chrétiens, il n'y avait pas beaucoup de gens bien en vue dans la société. Peu de nobles, peu de gens d'influence. Alors question, comment allait-il pourvoir accomplir leur mission dans ces conditions-là? Jésus leur dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Comment faire cela quand on est dans une telle situation? Eh bien, l'Église, on va le voir dans deux passages du livre des Actes, l'Église, dès les débuts, avait appris à compter sur Dieu dans la prière. Et j'aimerais justement, ce soir, qu'on se penche sur un autre aspect de la prière, c'est la prière communautaire, la prière des premiers chrétiens. Et se poser la question, quelle place l'Église primitive accordait-elle à la prière? Comment est-ce que les premiers chrétiens priaient, eux? Et je pense que leur exemple va être d'un très grand intérêt pour nous ce soir. Alors on va lire Actes chapitre 4, les versets 1 à 31. Actes 4, 1 à 31. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs des gardes du temple, les sadducéens. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Ils les arrêtèrent, les mirent en prison pour la nuit car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup crurent et le nombre des croyants s'élevait à 5 000 personnes environ. Verset 5. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Hey, vous, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous effectué cette guérison ?» Parce qu'il vient d'avoir une guérison au chapitre 3. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « chef du peuple et ancien, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme et on nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, elle est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre pour qui nous pourrions être sauvés. » Par qui nous pourrions être sauvés ? Verset 13. « Les membres du conseil étaient très étonnés car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'était des hommes simples, sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus, mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil, se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient « Que ferons-nous de ces gens ?» Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle évident a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. Nous allons donc leur défendre avec des menaces de parler encore à qui que ce soit au nom de Jésus. Verset 18. Ils les rappelèrent alors et leur interdirent catégoriquement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent « Jugez vous-même ». S'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à lui. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Waouh ! Verset 23. Dès qu'ils furent relâchés, Pierre et Jean se rendirent auprès du groupe de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens avaient dit. Et après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Ô Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, a fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées, mais pourquoi ? Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qu'il a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer de ta parole avec une pleine assurance, démontre ta puissance afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Verset 31. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Waouh ! Quel texte ! Quelle histoire extraordinaire ! On reviendra au livre des Actes un peu plus loin. Dans chapitre 4 du livre des Actes, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve Pierre et Jean. Les deux sont en grande difficulté. C'est pas facile ce qu'ils vivent. Ils ont commencé à obéir à l'ordre missionnaire de Jésus. Jésus leur a dit « Allez, jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez être mes témoins. » Actes, chapitre 1, verset 8. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont annoncé l'évangile et très rapidement, les obstacles sont apparus. Avez-vous eu à cœur d'obéir à la parole de Jésus, d'aller ? Si vous avez commencé à évangéliser, vous aussi, vous avez peut-être reconnu que très rapidement, quand on fait ça, il peut y avoir des obstacles qui surgissent, et c'est normal. Au chapitre 3 du livre des Actes, il y a un boiteux. Il est assis devant l'entrée du temple et il fait l'aumône, fait la manche. Il demande à Pierre et à Jean de l'argent. Mais les deux apôtres ne sont pas très riches. Pas de fortune personnelle, pas beaucoup de biens matériels. Et ils n'ont rien à donner aux boiteux, sauf l'évangile. Ça, c'est riche. Ils disent, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Imaginez la scène. Lève-toi et marche. Et le boiteux se lève et marche. Imaginez la vie transformée. Le gars ne pouvait que mendier. C'était un exclu de la société. Il va pouvoir aller travailler. Il va pouvoir aller au temple. Il va pouvoir commencer une vie nouvelle. Le boiteux sautille de joie. Il est heureux. Il loue Dieu, se met à suivre Pierre et Jean à l'intérieur du temple. Hein? Partout où Pierre et Jean allaient, lui, il les suivait et il sautait de joie et il parlait tellement que ça alertait les chefs des Juifs. Les autorités religieuses découvrent que ce qui se passe, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, ce bruit, là, au fond? Et là, ils voient l'homme sautiller et ils voient les apôtres et les chefs religieux vont voir les apôtres et leur disent, venez ici. Et ils commencent à leur parler. Ils les menacent et ils leur disent, vous, taisez-vous. Arrêtez-vous de parler. C'est fini. Assez, parlez de Jésus. Comment est-ce que Pierre et Jean réagissent? Pierre et Jean répondent courageusement. Impossible. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas obéir à ce que vous dites. En toute bonne conscience, on ne peut pas s'arrêter de parler. Alors le Sanhédrin, le conseil des Juifs, ne sait pas trop comment punir Pierre et Jean, parce que devant tout le monde, de toute évidence, ils sont en train de désobéir à leur ordre. Et puis la foule est du côté de Pierre et Jean, parce qu'il y a un homme qui est malade depuis 40 ans, et là tout à coup, il marche. C'est un problème ça. Comment est-ce que Pierre et Jean vont réagir? Premier réflexe. Aussitôt qu'ils sont relâchés, ils retournent vers les frères et sœurs, ils vont vers l'église. C'est beau, hein? Est-ce que nous, en face de difficultés, on a ce réflexe d'aller vers les frères et sœurs, vers l'église? Eux, c'est ce qu'ils font. Ils vont vers les frères et sœurs, vers l'église. Et ils leur disent ce qui vient d'arriver. Et pour paraphraser dans mon vocabulaire à moi, en gros, ils leur disent, les amis, on a un gros problème. On a maintenant les autorités religieuses sur le dos. Pas facile, hein? Et qu'est-ce qu'on va faire? On s'arrête de parler? Mais non, on vient de dire au conseil qu'on ne pouvait pas s'arrêter de parler. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue de parler? Alors, si on continue de parler, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voyez, une situation difficile. Avez-vous déjà eu à vivre des situations difficiles dans votre vie? Un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Vous servez le Seigneur et vous êtes en face de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Situation difficile. Les disciples sont pas sûrs de savoir comment gérer cette situation-là. J'aimerais vous raconter un petit peu de ma vie personnelle. Quand moi je suis arrivé en France avec ma femme Janine en 1993, ça fait déjà longtemps. On nous avait demandé à l'époque de joindre une équipe d'implantation à Ponto Combo. Est-ce qu'il y a des gens de Ponto ici? Vous connaissez peut-être l'église de Ponto, ouais? Bon, on est arrivé et on s'est engagé dans un projet d'implantation avec le pasteur Chris Short, pasteur fondateur de l'église. Alors l'église mère, l'église d'Ozoir, allait laisser partir une vingtaine de personnes pour commencer l'église. 20 personnes qui décident de participer au projet, de former le noyau de la nouvelle église. si vous avez déjà fait partie d'une église naissante en France, vous allez comprendre que le défi que ça représente est énorme. Et surtout à l'époque, dans les années 90. Notre petit groupe avait des moyens limités. On n'avait pas beaucoup d'argent. On n'avait pas de locaux. On avait très peu de contacts dans la ville. Comment est-ce qu'on allait faire pour atteindre les 36 000 habitants de Pont-au-Combeau? Bonne question. On veut démarrer une église, il faut toucher les gens de la ville. Une petite poignée de personnes, peu de contacts dans la ville, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, il y a une église à Ponto, une grande église à Ponto, une église vivante, une église dynamique. Il y a 2 ans, Chris Short, le pasteur fondateur de l'église de Ponto, a pris sa retraite. Et donc l'Assemblée a organisé une grande fête de reconnaissance. Vous savez comme on fait pour remercier Dieu pour le ministère d'une personne. On voulait célébrer la fidélité de Dieu dans le ministère de Christ. Et là, il y avait plusieurs centaines de personnes, je pense. Et à cette occasion-là, on m'a demandé de raconter ce que Dieu m'avait appris pendant les 8 années de ministère à Ponto. Alors, en 8 ans, il se passe plein de choses et quand on a 5 minutes, on se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je pourrais dire beaucoup de choses, on a vécu des choses fortes à Ponto. Mais voici ce que j'ai dit en guise de témoignage. Ce jour-là, j'ai dit, avec Chris à Ponto, j'ai appris à faire confiance à Dieu dans la prière. La plus grande leçon, la prière. Alors c'est étonnant parce que moi j'étais chrétien depuis longtemps déjà. Au Canada, depuis que je m'étais converti, j'avais appris à prier, bien sûr. Depuis que je suis chrétien, j'ai toujours prié. Je comprenais l'importance de prier. Mais voyez-vous, à Ponto, lorsqu'on a été mis face à des situations où on ne savait pas quoi faire, avec les frères et sœurs, on s'est réunis et on s'est mis à genoux. Et on s'est mis à prier. On a eu des semaines de jeûne et de prière. On a crié à Dieu. Et c'est extraordinaire de pouvoir crier à Dieu avec des frères et sœurs et de voir ce que Dieu va faire. On a demandé à Dieu, Seigneur, sauve! Sauve des gens! Donne-nous la clé pour atteindre cette population. Seigneur, envoie-nous des enfants. À l'époque, au début, il n'y avait pas d'enfants pour l'école du dimanche. Envoie des enfants. Seigneur, donne-nous des locaux qui vont nous permettre de continuer à grandir. Seigneur, on n'a pas de fonds pour faire des travaux dans les locaux que tu nous as donnés. Pourvois. Dieu donne des leaders dans l'église. Envoie dans l'église des personnes qui ont des dons qui nous manquent pour aller plus loin dans l'œuvre du Seigneur. On a prié comme ça. Forme ton équipe. Et Dieu, dans sa grâce, a commencé à nous faire découvrir sa fidélité, sa grande puissance, ses solutions à lui, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut espérer ou même penser. En 6 ans, on a déménagé 5 fois parce que nos locaux étaient devenus trop petits. Dieu nous a donné plein d'enfants à l'école du dimanche. Des familles sont venues dans l'église et là, il y avait des enfants. Et il y en avait même plus qu'on espérait. Des personnes douées ont déménagé dans notre secteur. Je me souviens à l'époque qu'il y avait 2 anciens en formation dans des églises à Paris et il s'est trouvé qu'ils ont déménagé dans le secteur de Ponto-Combeau et ils sont venus joindre l'équipe et c'est exactement ce qu'on demandait. Des personnes douées pour nous aider à aller plus loin dans le ministère. En 1 an, si je me souviens bien, on a reçu 1 million de francs français en dons d'endroits où on ne s'imaginait pas en recevoir. À l'époque, 1 million de francs français pour faire des travaux. Dieu nous a permis d'entrer dans les réseaux de connaissances dans la ville. Il y a une petite dame pendant la semaine de l'œcuménisme. Son curé catholique lui a dit « Viens dans le groupe de maison, trouve une église protestante et va les voir. Elle est venue dans le groupe de maison et elle n'est jamais repartie. Mais cette femme-là, son mari travaillait à la mairie. Elle a amené la secrétaire du maire, elle a amené sa femme de ménage, elle a amené sa maman. Elle touchait beaucoup de personnes dans la ville. On a rencontré une autre fois une dame africaine en donnant un calendrier. Et la dame nous dit, il y a un groupe de mamans ici, une quinzaine de mamans qui prient. Et là, je suis invité, je vais commencer à parler avec ces gens-là. Ces gens-là entrent dans l'église, il y a des maris qui se convertissent. Dieu nous a mis en contact avec des personnes. Dieu a agi. Aujourd'hui, il y a plus de 450 personnes dans l'église de Pontecombo. Ils se réunissent le dimanche matin régulièrement. Ils ont 20 groupes de maison. L'église de Pontecombo a envoyé un missionnaire en Côte d'Ivoire dans un pays, une région non atteinte. Des personnes continuent de se tourner vers Jésus. Et la fille du pasteur travaille à la mairie à Pontecombo. Dieu a agi. Qui aurait cru que Dieu allait amener ce petit groupe de 20 personnes là où il est aujourd'hui? Incroyable! La prière. Demander à Dieu de manifester sa gloire dans des situations où nous, on ne sait pas quoi faire. Où nous, on n'a pas la solution. Demander et ensuite le glorifier en réponse à ses exaucements extraordinaires. On a vécu ce genre de choses à Ponto et je ne pourrais pas oublier cela. C'est des choses qui nous marquent à vie. Dans le livre d'Actes 4, dans le livre d'Actes des Apôtres, les disciples ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Et comment est-ce qu'ils prient? D'abord, première chose, ils prient d'abord en se souvenant de qui est Dieu. On a vu ça dans les autres messages précédents. Se souvenir d'abord de qui est Dieu. Ils se souviennent que Dieu est créateur, que Dieu est souverain. C'est la première chose, se souvenir de qui est Dieu. Dieu peut tout faire. Lorsqu'on veut prier, c'est important de savoir à qui on s'adresse et qui est Dieu. Et ils commencent par là, les apôtres. Ensuite, ils s'appuient sur les Écritures. Vous avez remarqué, ils citent le psaume 2. Comme pour dire, Seigneur, tu nous as donné ta parole, on s'appuie sur ta parole. Seigneur, tu nous as fait des promesses, on t'apporte tes promesses à toi. Seigneur, accomplis tes promesses. Troisièmement, ils se souviennent de Jésus. Comment Jésus a accompli le plan de Dieu malgré les oppositions? Ils se souviennent de Jésus. Jésus nourrit leurs prières. Donc, mettre Dieu devant ses yeux quand on prie. C'est ce qu'ils font d'abord. Ensuite, ils demandent. Et ils demandent quelque chose d'assez surprenant. Je ne sais pas si moi j'aurais prié comme ça. Ils ne demandent pas que les problèmes disparaissent. Ils ne demandent pas que leur vie soit plus facile. Ils ne demandent pas que Dieu les débarrasse du conseil des Juifs. Ah, il y a bien des fois peut-être où on pourrait prier comme ça, et il y a des fois où Dieu nous demande de prier comme ça. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'ils vont prier, eux. Ils demandent quatre choses, en fait. Ils demandent, vois leurs menaces. Seigneur, regarde la situation. Et on peut demander au Seigneur, quand on traverse des moments difficiles où on est en face de situations insolubles, « Seigneur, regarde ce qui se passe ici. » Ils leur disent « Vois la situation. Vois leurs menaces. » Ensuite, ils demandent à Dieu d'intervenir. « Étends ta main. Seigneur, étends ta main. Fais quelque chose. Agis. » Ensuite, « Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. Seigneur, aide-nous à continuer la mission que tu nous as confiée. » On ne veut pas que ce genre de situation nous empêche d'accomplir la mission que tu nous donnes. Et ensuite, et là c'est hardi, c'est courageux, c'est audacieux, il demande « Accompagne notre témoignage de ta puissance ». Vous avez déjà prié comme ça ? Seigneur, montre ta puissance à cette population. Montre-leur que tu es Dieu, que tu es tout-puissant. Il prie comme ça. Waouh ! Quelle prière, hein ? Et dans sa grâce, parce que c'est toujours cette grâce de Dieu qui permet que des choses comme ça se passent, dans sa grâce, Dieu a agi selon sa puissance. Dieu a agi selon ses promesses. Dieu a honoré son évangile. Jésus a continué à être prêché. Et d'autres personnes se sont ajoutées à l'Église. Ils sont passés de 3000 à 5000. Et ensuite, d'autres se sont convertis. Les disciples ont été hardis. Et leur témoignage a été accompagné de puissance. Et le résultat, toute l'Église s'est réjouie. Toute l'Église s'est réjouie. Comme nous, à Ponto, quand on a vu Dieu répondre à nos prières, on s'est tous réjouis. Le texte d'Acte 4 nous rappelle à quel point c'est important d'apprendre à venir à Dieu avec notre impuissance. Vous savez, l'impuissance ou le fait de ne pas être capable de faire quelque chose, c'est jamais un problème pour Dieu. Le problème pour Dieu, c'est quand on ne vient pas à lui avec notre impuissance. C'est ça le problème. Ils sont venus avec leur impuissance, avec leurs impossibilités, avec leurs faiblesses, avec leurs limites. Ils sont venus à Dieu dans la dépendance de Dieu et ils ont fait confiance. Venir à lui, pas pour éviter les difficultés, pas pour qu'il nous rende la vie plus confortable, mais venir à Dieu pour qu'il accomplisse ses projets dans nos vies, dans notre ville, à Saint-Maur, parmi nos contemporains, pour le salut des hommes et pour la gloire de son nom. C'est comme ça que les apôtres ont prié. Et c'est comme ça que Dieu nous invite à prier, nous aussi. Ça, c'est acte 4. Maintenant, on va regarder une autre prière du livre des actes, c'est acte 12. Et là, on va lire le passage acte 12, 1 à 17. Situation complètement différente. Acte 12, 1 à 17. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête des pains sans levain. Et Hérode le fit donc saisir et jeter en prison, et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient. Ils priaient Dieu pour lui avec ardeur. Et durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Et soudain, un ange du Seigneur apparut, la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Et Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit de la maison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et il dit « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Et quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors, « Non, c'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Et quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et ils furent stupéfaits. de la main, ils leur firent signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore, « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères. » Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Une autre situation où les disciples prient. Situation bien différente. L'Église, comme c'est écrit en Actes 2,42, avait l'habitude de prier, de persévérer dans la prière. Donc, entre Actes 4 et Actes 12, l'Église continue de prier. Mais au verset 1, Luc nous rapporte que Hérode fait décapiter Jacques. Un apôtre. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est une situation assez déconcertante. C'est déroutant. Pourquoi la mort de cet apôtre? Jacques, un intime de Jésus avec Jean et Pierre, à certaines occasions, comme dans le jardin Gethsémané, ou par exemple lors de la transfiguration, il y avait seulement trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Jacques, un des intimes de Jésus. Et là, il meurt. L'Église a dû prier pour lui. Et il meurt. C'est déroutant. On entre ici dans un grand mystère par rapport à la prière. On prie avec foi, on s'attend à Dieu, on est sincère, ce qu'on demande n'arrive pas. Acte 4, Dieu intervient immédiatement avec puissance et ici, non. Comment comprendre cela ? Comment comprendre ce genre de situation ? Ça vous est peut-être déjà arrivé. La façon dont Dieu agit en réponse à nos prières nous laisse souvent perplexes. Pourquoi dans certains cas Dieu accorde des exaucements spectaculaires comme dans Acte 4 ? Et pourquoi ici au début d'Acte 12, il laisse Jacques mourir ? Pourquoi ? Pourquoi quand on prie pour des personnes malades, l'une est guérie et l'autre meurt ? Pourquoi ? Pourquoi Marthe et Marie prient Jésus de venir guérir leur frère Lazare et il ne vient pas ? Tout de suite. Pourquoi Paul prie pour qu'une écharde dans sa chair lui soit enlevée et elle reste ? Pourquoi ? Parfois Dieu nous le fait savoir, comme dans l'histoire de Lazare. On sait par le texte que Jésus vient plus tard pour manifester sa gloire, non seulement en guérissant Lazare, mais en le ressuscitant. Et Paul, on sait pourquoi Dieu a permis l'écharde dans la chair, pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. S'il avait été orgueilleux, son ministère aurait été complètement anéanti. Parfois on sait, mais parfois on ne sait pas pourquoi Dieu ne répond pas comme on l'attend. On découvre en Acte 12 que dans le plan de Dieu, il y a des domaines où ça peut être autre chose que ce qu'on a demandé qui arrive. On se rend compte que dans l'accomplissement du projet de Dieu, il pourrait y avoir des parties qui sont difficiles pour nous. Le plan de Dieu n'implique pas que ce qu'on va vivre va être toujours facile. Mais ce qui arrive, que ça nous réjouisse ou que ça nous fasse pleurer, Dieu veut qu'on sache que dans ce qui arrive, Dieu reste toujours bon. Dieu est bon, toujours bon, quoi qu'il arrive, peu importe son plan, et nous pouvons toujours continuer à lui faire confiance. Jacques meurt. La mort de Jacques, le fait que Dieu ait permis qu'Hérode arrive à ses fins. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais ça n'a pas refroidi les ardeurs des chrétiens par rapport à la prière. Hein? Les chrétiens, après la mort de Jacques, continuent de prier. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça vous-même, ou vous connaissez des personnes qui font comme ça, mais il y a parfois des personnes qui prient tant qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Tant que Dieu me donne ce que je veux, je continue de prier. Et le jour où les réponses ne sont pas celles que j'attends, c'est fini. Je ne prie plus. Vous avez vu ça ? Ça arrive. C'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir ce qu'on attend quand on prie. C'est vrai. Mais est-ce qu'on prie simplement parce que Dieu nous donne tout ce qu'on lui demande? Est-ce que la finalité de la prière, c'est moi et mes exaucements? Ici, acte 12 nous donne à comprendre que la finalité de la prière, c'est Dieu. Être en communion avec lui, c'est le connaître, c'est l'aimer, c'est le glorifier. Donc, après la mort de Jacques, l'Église continue à prier parce qu'elle accepte l'idée qu'un croyant puisse mourir pour l'Évangile. Les premiers chrétiens avaient intégré cette idée-là que, oui, on peut mourir pour l'Évangile. Parce qu'elle accepte l'idée que le plan de Dieu pour nos vies puisse impliquer la souffrance. Les chrétiens avaient intégré l'idée que quand on sert Dieu, parfois on peut souffrir. En acte 12, après la mort de Jacques, l'Église prie, réunie dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, parce que Pierre, leur leader, est en prison et Hérode veut le faire mourir comme il a fait mourir Jacques. Et il n'y a rien qui laisse à penser que Hérode va s'empêcher de tuer Pierre. L'Église se met en prière et cette fois Dieu intervient favorablement. Pierre est réveillé par un ange, on l'a lu. La porte de la cellule est ouverte miraculeusement. Et même Pierre, lui, il n'est pas trop sûr de ce qui lui arrive. Il se demande si c'est un rêve ou la réalité. Il se frotte les yeux, il se demande, il ne sait pas. Et donc il sort de la prison, il se rend chez Marie, il vient de comprendre que Dieu l'a délivré et il a hâte d'aller raconter ce que Dieu a fait à ses amis. Quand Dieu agit dans vos vies, est-ce que vous avez hâte d'aller le dire aux autres, à vos frères et sœurs? Est-ce que c'est une pratique chez vous de ne pas garder en vous-même, pour vous seul, les bénédictions de Dieu, ce que Dieu a fait, de le dire, d'en témoigner? Pierre, il veut aller voir les chrétiens. C'est un récit glorieux, hein? Mais on a un autre point qui est important de souligner ici. Il y en a, et vous en connaissez peut-être des gens, et vous avez peut-être lu des articles sur ça, il y a des gens qui font dépendre l'exaucement à leur prière de leur grande foi. Pas vrai? Plus tu crois, plus de grandes choses arrivent. Si rien n'arrive, c'est que tu as manqué de foi. Et là, on fait une équation directe comme ça. Mais j'aimerais vous poser la question ici. Dans acte 12, dans notre histoire, est-ce que ceux qui priaient ont manifesté une grande foi, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure? Je vous relis l'histoire. Quand Pierre arrive, il tape à la porte, la servante Rode entend la voix de Pierre, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le laisse dehors. Cours dire à l'église que Pierre est là. Et les chrétiens qui priaient pour sa libération disent à Rode, « T'es folle. Tu es folle. C'est son ange. » Est-ce qu'ils avaient une grande foi? Pas sûr. Ils sont étonnés de le voir. Si Dieu faisait toujours dépendre ses exaucements de notre grande foi, on serait mal. On serait très mal. Mais Dieu fait grâce dans la prière. Dieu fait grâce. Dieu est patient. Dieu nous apprend à lui faire confiance. Dieu vient au secours de notre incrédulité. Vous vous souvenez du pauvre homme, son enfant était malade, il se jetait dans le feu. Le père, il ne savait plus quoi faire. Il avait essayé de trouver des solutions partout. Et il amène son enfant à Jésus. Et il demande à Jésus de le guérir. Mais il a peu de foi. Et il crie, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus guérit l'enfant. Extraordinaire. La grâce de Dieu. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on apprend à lui faire confiance, plus notre foi grandit. Et on peut, mes amis, venir et dire au Seigneur, « Viens au secours de mon incrédulité. » Et Dieu fait grâce. en acte 4, en acte 12, deux prières, deux textes qui nous rappellent l'importance de prier en Église, la prière communautaire. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ces deux textes nous apprennent ce soir au sujet de la prière? Quatre leçons importantes. Premièrement, que Dieu veut qu'on prie en toutes circonstances. Soyons une église qui prie. Dieu veut qu'on sache que c'est important de prier. Quand on regarde la vie de la première église, chapitre 1, aussitôt que Jésus monte au ciel auprès de son Père, les chrétiens prient. Ils prient pour remplacer Judas. Chapitre 2, en attendant la Pentecôte, ils prient. Chapitre 3 et 4, ils prient encore. Et vous regardez, chapitre 2, ils persévéraient dans la prière. L'Église primitive priait en toutes circonstances. Soyons une Église qui prie. Deuxièmement, Dieu veut nous révéler sa puissance au travers de situations ordinaires, mais aussi extraordinaires. On peut demander à Dieu de faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Dieu veut manifester sa puissance. Troisièmement, le texte nous apprend au sujet de la prière que l'accomplissement du plan de Dieu ne correspond pas toujours à ce qu'on a demandé. Jacques meurt. Dieu accomplit son plan parfaitement et ce n'est pas toujours ce qu'on aurait souhaité nous. Mais Dieu nous fait comprendre qu'on peut continuer à prier même quand notre foi est déficiente et faible. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te rends compte que ta foi est petite, faible et déficiente que tu dois t'arrêter de prier. Continue de prier. Dieu fait grâce. Dieu est bon. J'aimerais ce soir qu'on s'arrête à penser à notre vie de prière communautaire. Quelle est-elle devant Dieu? Comment considérez-vous que l'Église de Saint-Maur réagit en face des situations impossibles? Pourrions-nous nous imaginer ce soir prier comme les frères et sœurs d'acte 4 ou même d'acte 12, en acceptant que Dieu accomplisse son plan, en lui demandant de manifester sa puissance et en étant soumis à sa volonté. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci ce soir pour cet exemple de l'Église primitive qui prie, qui cherche ta face et qui dépend de toi. Merci Seigneur parce que tu as un plan pour nous et c'est un plan qui est bon, même quand on ne comprend pas. Merci Seigneur, parce que tu veux entendre nos prières même quand elles sont faibles et qu'elles n'ont pas toute la foi qu'elles devraient avoir. Et tu nous aides Seigneur, tu nous fais grâce dans la prière. Merci Seigneur, parce que même si nous sommes déçus un jour de ne pas avoir l'exaucement qu'on attend, tu nous dis qu'on peut continuer à prier. Et Seigneur, on veut regarder à toi ce soir pour que tu nous aides à devenir une église qui prie en toutes circonstances. Je te demande au nom de Jésus. Amen.